RFI, 22h à Paris, 20h en temps universel.
Christophe Paget.
Bonsoir à toutes et à tous. Finalement, ce sera ce vendredi. De sources diplomatiques turques, il faudra attendre demain pour que commencent les négociations directes entre la Russie et l'Ukraine à Istanbul. Et il s'agirait peut-être en plus de simples réunions. On voit ça avec Marine de la Moissonnière au début de ce journal. Dans la bande de Gaza, plus de 100 personnes ont été tuées ce jeudi dans des bombardements israéliens, alors que partout dans le monde, les Palestiniens commémorent la Nakba, l'exil forcé de plus de 700 000 Palestiniens. C'était en 1948, lors de la création de l'État d'Israël. Nous irons au Liban avec notre correspondante Sophie Guignon. Enfin, l'ancien chef de l'État français Nicolas Sarkozy ne porte plus de bracelet électronique. Depuis hier, il bénéficie d'une libération conditionnelle. Au final, il n'aura porté le bracelet qu'un peu plus de 3 mois.
RFI.
Ce jeudi devait être le grand jour, peut-être. Les premiers pour parler de paix directe entre l'Ukraine et la Russie depuis le début de la guerre. Rendez-vous avait été pris à Istanbul, en Turquie. Marine de la Moissonnière, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on l'a appris ce soir, finalement, ce sera ce vendredi et ce seront peut-être de simples réunions. C'est ce qu'a indiqué une source au ministère turc des Affaires étrangères à l'agence France-Presse.
Ah oui, selon cette source de l'AFP, à la place des pourparlers directs, il y aurait au menu de ce vendredi plusieurs réunions entre les États-Unis, l'Ukraine et la Turquie d'une part, et d'autre part entre la Russie, l'Ukraine et la Turquie. On ignore pour l'instant si une réunion à quatre aura lieu, mais ce qui semble clair, c'est que pas grand-chose ne sortira de ces rencontres. Le secrétaire d'État américain l'a admis ce soir, les États-Unis n'ont pas de grandes attentes quant à ce qui se passera demain, a déclaré Marco Rubio. Il a reconnu que la délégation russe n'était pas au niveau espéré. Vladimir Poutine a envoyé à sa place un conseiller de second plan. Preuve, selon Volodymyr Zelensky, que la Russie ne prend pas ses négociations au sérieux. Le président ukrainien, qui lui non plus n'est pas présent à Istanbul. Réponse cinglante de la porte-parole de la diplomatie russe, qu'il a traité de clown et de raté. Ambiance tendue donc entre les deux camps qui ne préfigure rien de bon. De toute façon, selon Donald Trump, seul lui peut débloquer la situation. Tant que je n'aurai pas rencontré Vladimir Poutine, il ne se passera rien, a-t-il affirmé. Donald Trump qui pourrait se rendre vendredi en Turquie.
C'est bien noté. Merci Marine de la Moissonnière. En Cisjordanie, une Israélienne enceinte a été tuée lorsqu'une voiture a été visée par des tirs. Le chef d'état-major de l'armée s'est rendu sur place. Il a affirmé, comme un peu plus tard le Premier ministre Benjamin Netanyahou dans une vidéo, que les coupables seraient attrapés. En Cisjordanie, où 5 Palestiniens ont été tués ce jeudi lors d'une opération israélienne contre des groupes armés, une opération qui dure depuis le mois de janvier, alors que dans la bande de Gaza, c'était plus de 100 personnes qui étaient tuées aujourd'hui dans des bombardements israéliens. Et ce jeudi, à Gaza comme en Cisjordanie et ailleurs dans le monde, les Palestiniens commémorent la Nakba, l'exil forcé de plus de 700 000 Palestiniens de leur terre. C'était en 1948, lors de la création de l'État d'Israël. Un an plus tard, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens voyait le jour, l'UNRWA. Sa mission, assurer les services de base à des centaines de milliers de réfugiés disséminés à travers tout le Moyen-Orient, en Jordanie, en Syrie et au Liban. 77 ans plus tard, le droit au retour de ces réfugiés et de leurs descendants est toujours refusé par Israël malgré les résolutions de l'ONU qui vont dans ce sens. Et l'UNRWA menace elle de s'effondrer, faute de financement, et face à l'interdiction progressive de ses activités par Israël, en Cisjordanie comme à Gaza. Au Liban, notre correspondante Sophie Guignon s'est entretenue avec la directrice de l'UNRWA à Beyrouth.
77 ans après la Nakba, 220 000 Palestiniens vivent au Liban dans 12 camps où la précarité est la règle pour tous. D'après l'UNRWA, les deux tiers de ces réfugiés vivent sous le seuil de pauvreté à cause de nombreuses restrictions légales.
C'est une pauvreté qui s'est accumulée de génération en génération. Les Palestiniens ne peuvent pas travailler dans les emplois de la classe moyenne, ils ne peuvent pas être médecins, avocats ou ingénieurs, ils ne peuvent pas non plus posséder un commerce ou être propriétaires.
Des lois qui maintiennent les Palestiniens dans la dépendance à l'UNRWA, en charge des écoles, des centres de soins et même des infrastructures des camps, à l'heure où l'agence de l'ONU est étranglée financièrement.
L'agence n'a aucune visibilité au-delà de juin pour couvrir les salaires de nos employés. Cela aura des répercussions significatives ici au Liban, où les Palestiniens sont entièrement dépendants de nos services.
Au bord du précipice, l'UNRWA en appelle au soutien des pays donateurs. Sophie Guignon, Beyrouth, RFI.
Entre l'Inde et le Pakistan, les armes ne parlent plus depuis samedi dernier. D'ailleurs, le Pakistan affirme aujourd'hui que les deux armées se sont accordées sur un cessez-le-feu jusqu'à ce dimanche. mais on est encore loin de l'entente cordiale. Ce jeudi, New Delhi et Islamabad se sont mutuellement accusés de ne pas contrôler suffisamment leurs armes nucléaires.
RFI.
Le géant pharmaceutique français Sanofi annonce qu'il va investir au moins 20 milliards de dollars outre-Atlantique d'ici 2030. Sanofi, dont la moitié des ventes sont réalisées aux États-Unis. Ce n'est pas le premier laboratoire à faire ce genre de déclaration. Une réponse à Washington qui fait pression pour que les grands laboratoires reviennent sur le sol américain. Thomas Rapp, professeur de sciences économiques à l'université Paris-Cité et spécialiste des questions de santé.
Les laboratoires doivent faire face à une pression qui est accrue venant de l'administration américaine. Et d'une part, les enjeux en termes de business actuels sont considérables aux États-Unis, qui représentent près de la moitié du business pour les entreprises pharmaceutiques dans le monde. Et donc là, il y a un enjeu de montrer aux autorités américaines que les laboratoires pharmaceutiques sont alignés sur la politique américaine. Et d'autre part, on est aujourd'hui dans une phase de notre histoire médicale dans laquelle il y a énormément d'innovations qui vont arriver sur le marché. Des innovations qui vont cibler à la fois des maladies rares, mais aussi des maladies pour lesquelles on attend des volumes de demandes très importants. Je pense à l'immunologie, aux maladies inflammatoires, à la neurologie, à l'oncologie. Et ces innovations seront lancées en priorité sur le marché américain, qui reste le marché le plus porteur pour l'industrie pharmaceutique. Et c'est dans ce contexte-là, je pense, que les laboratoires pharmaceutiques commencent à préparer les conditions de négociation de prix qui s'annoncent difficiles avec le gouvernement américain.
Thomas Rapp, joint par Anne Verdaguer. Plus de bracelets électroniques pour Nicolas Sarkozy. L'ex-chef de l'État français bénéficie d'une libération conditionnelle depuis mercredi. Il a pu en faire la demande parce que depuis fin janvier, il est âgé de 70 ans. Au final, Nicolas Sarkozy n'aura gardé le bracelet électronique qu'un peu plus de 3 mois. Sa prochaine échéance judiciaire, ce sera le 25 septembre, jour du délibéré de l'affaire libyenne, dans laquelle l'accusation a requis contre lui 7 ans de prison. La France va déposer demain une plainte contre l'Iran devant la Cour internationale de justice. Plainte pour violation du droit à la protection consulaire. Les deux Français, Cécile Kohler et son compagnon Jacques Paris, sont détenus depuis 3 ans en Iran. Et Paris accuse Téhéran de les maintenir en prison dans des conditions proches de la torture et de ne pas leur accorder une protection consulaire adéquate. On se dirige maintenant vers Cannes, le festival du cinéma. Dans un instant, on va parler des films qui ont marqué la journée, mais d'abord, intéressons-nous au festival en tant que marché. Parce que pendant 15 jours, le festival est aussi le cœur de l'industrie cinématographique. Normal, c'est le plus grand festival de cinéma au monde. D'autant qu'a été créé en son sein en 1959 le marché du film, qui réunit cette année près de 15 000 participants venus de 140 pays. Envoyé spécial, Guillaume Thibault.
Fourmilière au cœur du palais des festivals, le marché du film réunit la crème de la production du cinéma mondial. Pour cette édition, l'Égypte fait son grand retour, explique Farah Alawa de l'Agony Film Production.
C'est un excellent endroit pour le business, même pour apprendre des nouvelles choses.
Très présent sur ce marché, l'Asie, particulièrement le Japon, qui doit s'adapter, comme le monde entier, à une évolution de la consommation des films. Yuka Matoy, de la Toy Company, est à Cannes pour trouver de nouveaux débouchés.
Le public vient moins au cinéma, les tickets coûtent de plus en plus cher. Les gens regardent les films en ligne. C'est pourquoi cet événement est important, il est puissant et permet de trouver de nouveaux marchés.
Pour développer son cinéma, le Nigeria a envoyé le conseiller spécial à la présidence de la République en charge de la création. Prince Baba Agba voit Cannes comme une ouverture sur le monde.
Notre cinéma est déjà populaire en Afrique. On veut le monétiser sur d'autres marchés. On a réussi à le faire avec la musique, avec l'afrobeat. Donc on veut l'exporter aux États-Unis, au Brésil, en France, en fait partout dans le monde.
Le festival est donc au cœur de l'industrie. En 2024, le marché mondial des salles de cinéma a été évalué à 73 milliards de dollars. Guillaume Thibault, Cannes, RFI.
Vive le ciné, que vive le ciné.
Et pour ce qui est des films à l'affiche de Cannes aujourd'hui, Put Your Soul on Your Hand and Walk, Mets ton âme dans ta main et marche. Un documentaire réalisé par l'iranienne Sepideh Farsi qui rend hommage à la photographe palestinienne Fatima Asoumna, tuée par un missile israélien à Gaza. Le film est projeté ce soir dans une section parallèle du festival. Pour ce qui est des films en compétition, il y avait un film français aujourd'hui, Dossier 137 de Dominique Moll. Et un de ses acteurs ne participe pas à la présentation. Il a été écarté par le délégué général du festival en raison d'un signalement pour des violences sexuelles présumées. Une décision inédite, prise en accord avec la production du film. RFI, 22h10 à Paris.